les hôpitaux qui n'étaient pas dans la nouvelle. À Matane, on se lave les mains à 59 % seulement. À Amqui, 68 %. On dirait que c'est comme il y a l'Est, puis il y a l'Ouest.
Il y a une barrière à quelque part.
On est moins propre à l'Est qu'à l'Ouest, mais à l'Ouest, on ne dépasse jamais 87 %. On dépasse jamais 87 %. Il y a quand même un 13 % là de gens qui ne se lavent pas les mains avant d'aller au chevet d'un patient. Donc, c'est assez révélateur du contexte actuel où on entre travailler, on sait qu'on peut être un agent contaminant, puis ça nous dérange pas.
Tu sais, pour certains, ça peut être des statistiques qui ne veulent pas dire grand-chose, mais lorsqu'on connaît un peu le milieu, Daniel, c'est un milieu de transmission.
Ben oui, faut que tu te laves les mains plus
souvent que pas. Là.
Non, mais là, c'est pas moi qui ai inventé ça. Là. Quand on dit, rappelons que le lavage des mains est la meilleure façon de prévenir la propagation des infections. On peut facilement disséminer certains agents pathogènes, tels que les virus et les bactéries, en touchant une autre personne.
Exact.
Pas moi qui invente ça, là. Non. OK? C'est particulier. On va aller dans un autre... Et pour avoir ça, Gilles, il a fallu passer par la loi d'accès à l'information. Est-ce que c'est parce qu'on était gêné des chiffres qu'on nous a donné un peu de misère pour les avoir? Quand je dis un peu de misère, c'est pas si difficile que ça. Il faut que t'écrives, puis que là, que t'évoques la loi d'accès à l'information, que tu demandes, tu poses tes questions. Je veux savoir ça, je veux savoir ça, je veux savoir ça. La première affaire qu'on a faite au 6 du Bas-Saint-Laurent, on s'est prévalu du 10 jours additionnels auxquels on a droit. C'est-à-dire, mettons qu'on est obligé de te donner une réponse dans les 30 jours, il y a
un 10 jours de flottement
par après. On s'en est prévalu tout de suite. Avant, en fait, dans l'accusé réception de mes demandes, il y avait déjà le 10 jours, on va s'en prévaloir. Et quand tu demandes, tu sais, il faut dans le fond, là, il faut que la population soit mise au courant de ça, pas parce que ça va changer ben de quoi dans leur vie, juste pour leur montrer comment c'est rendu.
Ben, je pensais que c'était un très beau cas pour Infoman.
Ouais.
Quand
tu fais une demande d'accès à l'information, Gilles, premièrement, ça veut dire que pour savoir quelque chose qui se passe dans ton hôpital et pour laquelle chose tu tiens des statistiques, le lavage des mains, tu ne peux pas passer par les communications. Il faut que tu passes par la loi d'accès à l'information. Et moi, ça me fait bien drôle quand la personne qui signe ma réponse est la personne qui est en charge des affaires juridiques au 6 du Bas-Saint-Laurent. Ça me fait un petit quelque chose.
Oui, parce que on passe pour des gens qui ne nous mêlent pas de nos affaires.
Ouais. On est obligé d'avoir une loi pour que des statistiques produites et qu'on finit par rendre publiques. Hein? Parce que si on n'avait pas voulu me les donner, là, on aurait dit non, on peut pas. Comme la CMR, mettons. Tu passes par la loi d'accès à l'information. La loi d'accès à l'information te dit non. Malgré que tu as 80 % d'actionnariat public, ils sont au-dessus de ça, eux autres. Tu peux pas avoir les informations parce qu'il y a du privé là-dedans, supposément. Bon, tu arrives avec des trucs d'hôpitaux qui savent en partant qu'ils vont te les donner. Ils savent qu'ils vont te les donner.
Ils veulent rallonger le processus.
Ils t'envoient la loi d'accès à l'information. Ouais. Que veux-tu? Tant qu'à y être, parce que j'avais d'autres questions à poser, concernant la vaccination. Ça, ils m'ont tout bien envoyé ça, des beaux tableaux. Ça va faire l'objet d'une autre nouvelle. Cette semaine, j'ai quasiment de quoi manger pour la semaine, Gilles. les vaccins, juste pour le plaisir comme ça de lancer un chiffre, à date, on a vacciné 35 457 personnes au Bas-Saint-Laurent. Toutes catégories confondues.
Présentement.
Oui. OK. Toutes catégories. Ben, en date du moment où ça a été produit, je pense que C'est en date du 11 décembre, sauf erreur. Oui, en date du 11 décembre. Donc, on a vacciné 35 457 personnes. Faut pas se surprendre, plus de vieux que de jeunes. Plus que t'es vieux, plus que le chiffre est important dans les tranches d'âge. Et pour ceux qui se posent des questions sur le taux d'occupation des civières, ben en moyenne, dans le Bas-Saint-Laurent, les civières sont occupées à 71 %, sauf à Rimouski, à 108 %. Pour ça qu'ils n'ont pas le temps de se laver les mains.
Ah, probablement.
Pour ça qu'ils n'ont pas le temps de se laver les mains. Alors, voilà pour cela. Voilà pour cela. Madame Vézina, Monique, qui est décédée dimanche à l'âge de 89 ans, en passant, je dis ça comme ça, elle était la mère du maire de Rimouski avant M. Caron. Donc, Marc Parent, c'était le fils de Mme Vézina. Ah bon? Ce matin, j'ai parlé avec André Plourde. André Plourde et elle sont arrivés à Ottawa en même temps. Même élection, l'élection de 84. Ils ont été réélus tous les deux en 88. Et ils étaient là tous les deux quand, finalement, le Parti conservateur s'est fait sortir.
Ça fait 40 ans déjà.
Non, ça fait un méchant bout de temps. Moi, le souvenir que je garde de Mme Vézina, même si je ne lui ai pas parlé souvent, parce que la raison pour laquelle on lui parlait, c'est parce qu'elle était la députée fédérale de Témiscouata, Rimouski-Témiscouata. Et dans ce temps-là, les députés fédéraux étaient pas mal plus impliqués dans ce qui se passait chez eux, là, dans leur comté, qu'ils le sont aujourd'hui, par rapport à des projets, par rapport au financement, par rapport à plein de trucs. Aujourd'hui, de la manière que ça marche, c'est si Québec accepte, c'est déjà décidé combien Ottawa va donner. Tu comprends? Fait que...
Oui, puis en plus, ces gens-là, ils étaient du côté du pouvoir. Il y avait accès à des...
À des budgets.
À des budgets.
Oui,
qui,
oui.
Dont plusieurs de nos députés n'ont pas accès aujourd'hui. Là.
Exactement. Exactement. Alors, j'ai parlé à André Plourde ce matin. C'était intéressant de lui jaser à propos de Mme Vézina. En passant, André Plourde, qui a l'air quand même en très bonne forme. D'ailleurs, c'est lui-même qui m'en témoignait ce matin. Encore une bonne jasette, bonne mémoire, beaucoup de souvenirs. Alors, c'est ça. Mme Vézina, qui est décédée en fin de semaine, je garde d'elle le souvenir d'une grande dame qui a fait sa place en politique, qui avait une prestance. On lui a confié des ministères intéressants quand même sous Brian Mulroney. Alors, condoléances à la famille. Le budget, on en a parlé tout à l'heure. On va aller tout de suite au national, Gilles, parce que j'ai retenu aujourd'hui deux choses. La première chose, et on s'en est parlé tout à l'heure avant d'arriver aux nouvelles, même si ça s'est pas jasé sur Québécois, médias de toutes sortes, le chroniqueur politique de TVA, Luc Lavoie, qui pourrait faire face à des chefs d'introduction par effraction et de harcèlement criminel à la suite d'une dispute survenue dans une résidence de la rive sud de Montréal. Et tout ça serait survenu dans la nuit du 8 décembre, quelque part dans l'agglomération de Longueuil. C'est la police qui a reçu un appel signalant une chicane entre deux personnes dans une résidence de Saint-Lambert vers 2h20 du matin. Et un homme de 69 ans, donc on présume que c'est Luc Lavoie, aurait harcelé une dame de 54 ans qu'il connaissait. Selon les informations de Cogeco Nouvelles, qui a d'abord rapporté la nouvelle, il s'agit de Luc Lavoie, une information que le corps policier n'a pas confirmée. Et, on dit que l'individu a été arrêté le même jour, pourrait faire face à des accusations d'introduction par effraction et de harcèlement criminel, libéré sous promesse de comparaître et avec certaines conditions de remise en liberté. On dit que pendant que la durée de l'enquête, il va pas participer aux émissions de TVA et de LCN. C'est QMI qui a dit ça. Notre client s'étonne qu'une situation personnelle et malheureuse se soit transformée en plainte criminelle, ont déclaré les avocats de Luc Lavoie à Nouveau Info. Il entend se défendre avec vigueur.
On connaît pas Daniel Lacoste et ce qui s'est passé, mais quand tu es un personnage public, on dirait que c'est le focus arrive beaucoup plus vite. Et moi, Luc Lavoie, je le déteste pas comme, comme analyste politique, même si des fois, il s'emporte.
Ouais.
Un caractère assez pointilleux.
Ouais.
Mais c'est un gars qui a un grand, grand, grand vécu au niveau politique.
Ouais,
regarde, on disait qu'il avait occupé une fonction dans le cabinet de M. Mulroney, je pense.
M. Mulroney, conseiller politique de Mulroney. Il a fait partie aussi de la boîte de communication nationale.
Ouais, ouais.
Mais... Tu sais, je veux dire, j'ai moi rendu là, là, ça m'enlève rien, là. Je veux dire, excuse-moi, là, pas ça m'enlève rien, mais ça m'influence aucunement, là. Tu sais, même si j'aurais été au service de la reine, là, ça me dérange pas, là. Tu sais, je veux dire, s'il s'est comporté en colon, ben, il sera jugé en fonction de ça, puis merci, bonsoir. C'est tout. Il en coûtera plus de... Ben, j'ai dit qu'il y avait deux choses. La deuxième chose, Kevin en a parlé ce matin, ça faisait la une du Journal de Québec, marché noir de la viande sauvage, alors qu'il est que c'est illégal, il est possible de se procurer de la viande d'orignal ou de cerf, en fait du chevreuil, à des prix dérisoires sur la réserve de Kanawake. C'est ce qu'a constaté le bureau d'enquête. Et si j'ai bien compris ce que Kevin disait ce matin... ben là, on se base là, sur les droits ancestraux puis toute la patente, là. Tu sais, je veux dire, il y en a qui étirent l'élastique, pas à
ben,
peu près.
On parle de chasse pour la subsistance, normalement.
Mais
là, c'est rendu qu'on en fait un usage commercial.
On fait commerce avec ça. C'est plus pareil. C'est pour ça que je te dis qu'il y en a qui étirent l'élastique pas à peu près, là.
Puis on l'étire, puis ce matin, je me sens que j'ai entendu un prix dérisoire, ce qu'on vend, cette viande-là à la livre.
Oui. Vraiment pas cher.
C'est quatre fois le prix du ballonné.
Oui, vraiment pas cher.
Le ballonné, est-ce qu'il est quatre fois plus cher que ça?
Oui, je comprends. il en coûtera plus de 600 000 $ pour remplacer le réservoir de mazout du pavillon de l'avenir.
Oui, je vous avais parlé il y a peut-être un mois et demi, qu'on prévoyait des travaux d'importance au pavillon de l'avenir. En fait, c'est des travaux qui vont se tirer entre le 5 mai et le 27 août. Alors, c'est des travaux d'importance. On va remplacer le gigantesque réservoir pour le mazout et la séparation d'huile, comme on dit.
Oui.
Alors, l'entreprise qui a fourni le prix le plus intéressant pour le centre de service scolaire, c'est GMR, une entreprise de Lévis. 615 000 $ pour un réservoir.
Oui.
Ça commence à faire du volume, ça, mon ami.
Oui.
Alors, on dit que c'est dans le plan et devis, là, on demandait que soit retiré le vieux réservoir. Il faut réaliser des aménagements hors sol, rebrancher toutes les conduites à la bouilloire, à l'huile, et finalement remplacer le séparateur d'huile qui passe sous la dalle de l'atelier de machinerie lourde. C'est sûr que machinerie lourde, lorsqu'on travaille avec des composantes comme ça, de l'huile et tout ça, assurément que sous le plancher, on devait avoir un réservoir pour récupérer les huiles usées.
Oui, puis probablement, Gilles, que dans le 600 000 $ là, il doit avoir plusieurs feuillards sur la décontamination.
Bien, peut-être.
Si c'est là depuis les années 60, là, c'est le même réservoir, là. Ça m'étonnerait, il faudrait qu'il soit chanceux, drôlement chanceux, de pouvoir retirer ça de là sans être obligé de faire une partie de décontamination.
Puis j'ai l'impression, Daniel, que c'est des réponses qu'on aura, c'est lorsqu'on aura ouvert le plancher, lorsqu'on aura commencé les travaux, parce que là, on a eu une visite de chantier, à quoi ça ressemblait, vous allez travailler là.
Mm-hmm.
J'ai bien l'impression que dans les plans de vie, le soumissionnaire a dû se réserver un petit...
Ouais.
Mais si on trouve le vent de contamination de l'huile usée qui s'est écoulée dans le sol, on ne sait pas, on le souhaite pas, mais déjà là, qu'à 615 000, c'est une belle facture.
Oui, exactement. Et d'ailleurs, il y a peut-être eu, je dis bien peut-être, un peu de terre contaminée quand on a fouillé là pour dans le carré du B. Là. Pourquoi je dis ça? C'est parce que pendant longtemps, il y a un tas de terre qui a resté là, couvert avec une bâche. Soit parce qu'on en avait trop, ça me surprendrait, on ne l'aurait pas couvert avec une bâche, et soit parce qu'il y avait de la terre contaminée dans ce qu'on a excavé, ce qui ne serait pas vraiment surprenant, d'ailleurs. On est quand même sur un terrain où on a exploité des choses commerciales là, qui relevaient du chemin de fer. Puis honnêtement, dans ces années-là, à mon avis, on était prudent, là, mais en même temps, on était prudent avec la prudence du temps. Et non pas avec la prudence d'aujourd'hui. On verra. Il y a des questions qui se posent là-dessus, malgré que c'était quand même pas une quantité phénoménale. Si jamais c'était un tas de terre contaminée, c'était à peine plus gros qu'ici. Alors, étant donné que tout le monde sait comment c'est grand ici dans le studio, ça donne une belle appréciation. OK, on s'en va à une pause, courte pause, avant les nouvelles de 16 heures.
Je suis Sylvie Vignet et je joins ma voix à tous les employés de Rivière-du-Loup Toyota afin de vous souhaiter un temps des fêtes rempli de chaleur et de bonheur. Que l'amour et la joie illuminent vos cœurs et vos foyers. Joyeuses fêtes à tous!